Épilogue. Quand il neigeait, le port Van Gogh prenait des allures de petit village féerique. Les guirlandes de lampions des péniches jouaient avec le blanc moelleux en y projetant des teintes chaudes. Les flocons atterrissaient dans un silence apaisant sur les balançoires du jardin, ou venaient tourbillonner à la surface de l'eau. De temps en temps, une boule roulait sur le pont des bateaux, frappait les vitres des cabines. Dès qu'il entendait des rires d'enfants, Nicolas pensait à Angèle. Lui aussi un jour ferait partie de la bande, il courrait avec des mômes de son âge et il serait heureux. Il ferma la barrière du ponton, ajusta son bonnet, ses gants et s'engagea le long du quai d'un pas lent. Il voulait apprécier chaque seconde de sa marche, emplir ses poumons de l'air glacé de cette fin janvier. Savourer, tout simplement. Car c'était pour ce soir. Bélanger se trouvait dans un état qu'il n'avait jamais ressenti, traversé d'un tas d'émotions contradictoires, à la fois terrorisé et rassuré. Et très fatigué aussi, trois nuits qu'il ne dormait quasiment pas depuis qu'il avait appris la nouvelle. Dans quelques heures, il serait papa. Ce bébé pour lequel il s'était tant battu, Audra et lui, allait enfin naître, avec un peu d'avance certes, mais suffisamment armé pour affronter le monde. À 36 semaines d'aménorrhée, les médecins ne voulaient plus prendre de risques. Après presque 3 mois à être maintenu artificiellement en vie, à nourrir et protéger le fœtus, le corps d'Audra était à bout de souffle et multipliait les alertes. Nicolas s'engouffra dans le métro, station Gabriel Péri. Fourré de masques enfouis derrière des écharpes colorées et des manteaux épais. Un paquet d'arrêts et 3 changements jusqu'à l'hôpital l'attendaient, mais la césarienne était planifiée à 19h, et il était à peine 15h. Le futur papa tenait néanmoins à passer quelques heures avec Audra, les toutes dernières. Akfak et lui avaient gagné sans même avoir eu besoin de faire appel auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Au moment où le Conseil d'État avait rendu son verdict, le fœtus était entré dans sa 30e semaine, ce qui faisait de lui un être parfaitement viable. Avec la pression populaire, la médiatisation, la mobilisation qui ne s'était jamais relâchée, les juges avaient sans doute préféré choisir la solution la moins polémique et dramatique. Dans l'océan de noirceur que cette année avait été, alors que les tourments n'avaient épargné personne, une telle naissance serait une magnifique touche d'espoir. Et l'espoir guérissait parfois mieux que la médecine. Sans surprise, les parents d'Audra avaient réagi. Ils s'étaient même adressés par voie de presse au ministre de la Santé, l'invitant à se prononcer de façon urgente auprès du directeur de l'hôpital pour inciter celui-ci à déposer un recours devant le Conseil européen. Recours qui aurait visé à contester la décision de maintien en vie de leur fille et, selon eux, à faire respecter les lois de ce pays. Le ministre s'était alors contenté d'exprimer sa compassion et son malaise face à cette affaire familiale extrêmement douloureuse et difficile dont la société s'emparait sans pudeur en la politisant. Mais, comme à son habitude, il n'avait pas clairement répondu, jouant lui aussi avec le temps qui s'égrenait. Derrière chacun des mots des SPIC et de leur avocat, derrière chaque attaque, Nicolas se rappelait le but ultime de la manœuvre. Il revoyait ce face-à-face dans la cuisine de sa péniche, et ces images lui glaçaient toujours autant le sang. Le mal n'existait pas qu'à travers les actes sanglants des criminels. Il se diluait dans les veines de chaque être humain, attendant son heure pour se manifester, blessé, contaminé. Le mal était partout. Ligne 14, puis changement pour rejoindre la ligne 7, à Pyramide. Le flic offrit sa place à une vieille femme et s'adossa à la porte, posant son sac à ses pieds. Il avait prévu de rester la nuit à l'hôpital, auprès de son fils. Angèle serait sous surveillance accrue, mais normalement en dehors d'une couveuse. Nicolas pourrait ainsi profiter de chacun des premiers instants de sa vie. Bientôt, si tout se passait bien, il allait ramener son enfant dans le cocon qu'il leur avait préparé à tous les deux. Bien sûr qu'il avait peur, que rien ne serait plus comme avant, mais il était prêt. Et rassuré à l'idée de pouvoir compter sur ses collègues et amis. Il n'était pas seul. Il ne l'avait jamais été. Il s'était déjà écoulé 9 semaines depuis le terrible épilogue dans le sanatorium. Pourtant, il avait pleinement conscience que le temps n'aurait aucune emprise sur ce que son équipe et lui avaient vu là-bas. Nicolas savait qu'il emporterait jusqu'au bout l'image de ces Prométhées maudits, figés l'un contre l'autre dans ce décor sinistre, et celle de Charcot arrachant les tuyaux du cerveau d'Emma Doty. Un geste qui avait heurté son commandant au plus profond de son âme, incapable de savoir s'il avait mis fin à une forme de vie qui, malgré tout, méritait d'être vécue, ou s'il avait détruit l'abominable fruit engendré par la science et la folie des hommes. Au bureau, désormais, on remplissait des papiers, on actait chaque procédure, on rapatriait et décortiquait les dossiers d'autres services, notamment ceux qui concernaient les crimes que Calvar avait maquillés en accident. On tentait aussi de rendre une identité au visage découvert dans le grenier de Stéphane Tranché et de définir le nombre de victimes potentielles de la faille. Un travail sans fin qui avait l'avantage d'occuper les esprits, de les empêcher de ruminer et d'avoir à parler de ce qui les avait tant éprouvés. Nicolas sortit de la bouche du métro et prit la direction du Kremlin-Bicêtre. Il aurait pu s'y rendre les yeux fermés, tant il avait emprunté ce trajet ces derniers mois. Quand il aurait récupéré son fils, plus jamais il ne viendrait dans ce coin-là. Avec son masque et chaudement couvert, il circula incognito au milieu des journalistes qui prenaient déjà place aux abords de l'hôpital. Les gens avaient suivi cette affaire comme une série à rebondissements. Il leur fallait désormais la conclusion heureuse. Du hall, il regagna la chambre d'Audra, ainsi qu'il le faisait depuis des semaines. Toujours les mêmes gestes. La porte qu'on rabat, la chaise qu'on tire, le baiser sur la joue, le ventre qu'on caresse. Et ces mots qui lui murmuraient, des pensées qu'il lui adressait à elle, et elle seule, qu'elle emporterait. Quand il lui prit la main, il se dit que c'était peut-être la dernière fois qu'il la touchait aussi chaude. Bientôt, ce feu l'aurait quitté. À jamais. Mais il en resterait les braises ardentes dans le cœur d'Angèle. Alors qu'il était plongé dans ses réflexions, perdu dans ses émotions, on frappa et dans la foulée, Martin Corneille entra. D'ordinaire, Nicolas se demandait si sa présence était synonyme de bonne ou de mauvaise nouvelle, tant ce médecin l'avait fait passer par tous les états possibles et imaginables. Mais là, le lieutenant comprit dans la seconde que quelque chose clochait. Et ça paraissait grave. « Pitié, ne me dites pas que l'accouchement est repoussé », attaqua-t-il d'emblée. Corneille se massa le front, visiblement embarrassé et contrarié. « C'est bien pire que ça. » « Je suis désolé, je pensais que votre avocat vous avait prévenu. » Il se rendit à la fenêtre dans un soupir. Nicolas avait l'impression de revivre la même scène à l'infini. Le médecin finit par se retourner et se posta dans l'angle de la pièce. Ce matin, les SPIC ont déposé un référé en urgence qui interdit l'extraction du fœtus. Brusquement, le décor sembla se diluer autour de Nicolas, comme lorsqu'on se retrouve dans un état entre sommeil et éveil. Audra, la chambre, les murs, plus rien n'existait, hormis le visage flottant du médecin sur lequel il se concentra. « Qu'est-ce que vous racontez ? Sous quel prétexte ?» Le motif est complètement inattendu et joue sur le fait que votre compagne est toujours vivante d'un point de vue légal. Il s'appuie sur le principe d'inviolabilité du corps humain. En cas de tentative de césarienne, les parents porteraient plainte pour atteinte à l'intégrité physique de leur fille sans son consentement, voire pour acte de barbarie et mutilation sur la personne de Madame Speak. Mutilation. Barbarie. Nicolas se sentit vaciller. Alors c'était ça ce qu'avait voulu dire le père d'Audra le soir où il était venu lui rendre visite. Une ultime paire d'as que ce salopard avait gardé dans sa manche tout ce temps. C'est imparable, reprit Corneille. Et je ne vois pas comment l'ordonnance délivrée par le juge ne leur donnerait pas raison. À partir de maintenant, toute personne participant à l'acte chirurgical pourrait être lourdement condamnée, jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Aucun obstétricien, aussi compatissant soit-il, ne prendra le risque de faire naître votre enfant. Cette scène ne pouvait pas être réelle. Quand donc tout cela cesserait-il? C'était de l'acharnement à l'état pur. Le téléphone du flic sonnait. C'était Akfak. Il ne décrocha pas. Tout lui paraissait trouble. Il regarda au drap, son ventre, et son estomac se retourna quand il comprit ce que cette décision impliquait. Les mots peinèrent à franchir le seuil de ses lèvres.
Si on empêche Angèle de naître, ça signifie que...
Corneille n'était plus le médecin solide, inébranlable que Nicolas avait l'habitude de voir. Ainsi prostré dans son coin d'où il n'avait pas bougé, il ressemblait à un animal piégé.
« Ça signifie qu'il finira par mourir dans le ventre de sa mère, » confirma-t-il. « Il n'y a malheureusement aucune solution. Nous sommes cette fois au bout du système, au bout de la connerie humaine. Tout cela me révolte, croyez-le. J'en ai moi aussi plus qu'assez de... »
Nicolas eut soudain l'impression que quelqu'un débranchait une prise dans son dos. D'un coup, il tomba. Et il n'y eut plus que l'obscurité. Les sons parvinrent à ses oreilles, diffus, lointains, comme sur une plage lorsqu'on somnole langoureusement. Un sentiment de chaleur intérieure et de plénitude l'étreignait. Nicolas ouvrit lentement les yeux. La première chose qu'il aperçut fut le néon éteint au-dessus de sa tête. Il se redressa avec la sensation d'avoir avalé un sac de plâtre. Courant sur son avant-bras droit, une perfusion reliait à une poche. La lumière crue du couloir filtrait par la porte légèrement entrebâillée et striait le mur face à lui. On l'avait couché sur un brancard et enfermé dans cette petite pièce où il avait déjà passé de nombreuses nuits, non loin de la salle des infirmières. Qu'est-ce qu'il fichait ici? Il se souvenait de sa rencontre avec Corneille, des révélations du médecin, puis... le trou noir. Pourtant, il n'avait pas rêvé. Le cauchemar se poursuivait. Après s'être acharné pendant des mois pour obtenir l'autorisation de débrancher au drap, ses parents refusaient qu'on dispose de son corps. Autrement dit, ils s'assuraient que son fils ne puisse pas naître. Comment tant de noirceur pouvait-elle habiter des êtres humains? Ils étaient le mal incarné. Nicolas ne les laisserait pas faire. Décidé à quitter ce cagibi pour retourner au front, il arrachait l'adhésif qui maintenait l'aiguille sous sa peau quand une voix le fit sursauter.
« Touche pas à ça, j'appelle une infirmière. »
Charcot venait d'apparaître et de disparaître aussi sec dans l'embrasure. Le lieutenant n'y comprenait plus rien. Dans la minute, une soignante se présenta, le débarrassa de la perfusion et lui demanda de tenir un morceau de coton stérile dans le pli du coude avant de repartir.
« T'es tombé dans les vapes », expliqua Franck en lui donnant une bouteille d'eau. « Corneille était là, alors il t'a mis sur un brancard et t'a amené ici. Il a fini par avouer t'avoir administré un sédatif capable d'assommer un bœuf. On a mieux compris pourquoi t'étais impossible à réveiller. T'as dormi quasiment 8 heures. »
Assis sur son fin matelas, Bélanger se sentait encore à moitié dans le brouillard. Il but une gorgée.
« Un sédatif ?» « Habille-toi, je vais te raconter. »
Nicolas s'exécuta. Son chef avait le regard grave.
« Dis-moi ce qui se passe, Franck. »
Ce dernier se baissa pour ramasser ses chaussures, qu'il lui tendit. Puis il se racla la gorge et se lança.
« Martin Corneille est en état d'arrestation. À 23h50, les appareils reliés à Audra ont bipé. L'alarme s'est déclenchée. » Quand les infirmières ont débarqué, le médecin venait de sortir le bébé par césarienne.
Le lieutenant essaya de prononcer un mot, en vain. Charcot lui posa une main sur l'épaule, avec cette fois un pâle sourire aux lèvres.
Angèle est vivant. Il a immédiatement été transféré au service d'obstétrique à l'autre bout de l'hôpital. Aux dernières nouvelles transmises par Lucie, il se porte bien. Et je crois qu'il attend son père.
C'était trop d'un coup. Nicolas ne put empêcher les larmes de monter. Il y avait de la joie, une joie entière dans cette mer salée qui embua ses yeux. Il se jeta contre Charcot
et le serra contre lui.
C'est pas possible. Putain, j'y suis arrivé.
Oui, tu y es arrivé. Toutes mes félicitations, tu es papa.
Frank était ému lui aussi. Son ami s'était battu, il y avait mis toutes ses tripes et il avait vaincu. Cet enfant était le fruit de son obstination.
Audra est encore là, reprit le commandant. Il voulait l'emmener, mais je leur ai demandé de patienter. Tu peux lui dire un dernier au revoir avant d'aller rencontrer ton fils. Je reste ici.
Le calme était céleste quand Nicolas entra dans la chambre d'Audra. Les appareils étaient éteints, écartés du lit où son amour se reposait enfin, les draps immaculés recouvrant sa poitrine qui, désormais, ne bougeait plus. Son visage était blanc, mais il en émanait une sérénité incroyable. Avec ses paupières délicatement baissées, ses traits détendus, ses cheveux étalés sur la tête d'oreiller, elle donnait l'impression de prendre un bain de soleil. Pour la première fois depuis longtemps, Nicolas ne se sentait pas triste. Audra était devenue maman avant de partir en paix. Elle avait offert à Angèle la possibilité de participer à la grande aventure de l'humanité, et, il en était certain, elle se pencherait au-dessus de son berceau pour le protéger. Elle viendrait lui rendre visite dans ses rêves. Elle serait leur ange gardien. Bouleversé par ce cadeau qu'elle lui avait fait, il l'embrassa avec une profonde tendresse, lui caressa la joue du dos de la main et sortit en douceur, comme un croyant quittant son église. Une autre rencontre l'attendait. Avec Charcot, ils s'éloignèrent, silencieux, en direction de la maternité. Le lieutenant eut une pensée émue pour Martin Corneille lorsqu'il passa devant son bureau fermé. Le soignant s'était sacrifié pour qu'Angèle naisse. Il avait à présent une dette envers lui, et ne l'abandonnerait pas. Il se promit de remuer ciel et terre pour qu'il n'aille pas en prison. Le feuilleton avec les médias était loin d'être terminé. Lucie se tenait près de la nurserie. Elle serra Bélanger dans ses bras, triste et sereine en même temps, puis fit signe à une sage-femme pour qu'elle le conduise jusqu'à son fils. Ça devait être son moment à lui, rien qu'à lui. Dans la nurserie, les cris des nouveau-nés remplirent le cœur du jeune papa. Rien au monde n'était plus joyeux que cet endroit. Elle lui présenta le berceau. Nicolas était si fébrile qu'elle lui demanda s'il ne souhaitait pas s'asseoir. Il déclina d'un geste, refusant de quitter son fils des yeux. Devant lui, Angèle se recroquevillait, sa tête légèrement tournée sur le côté, sa bouche pincée. Des pastilles reliées à des capteurs étaient collées sur sa poitrine. Ses mains et ses pieds étaient tout fripés.
« Vous voulez le tenir ? Installez-vous dans le fauteuil, je vous l'amène. »
Nicolas n'en menait pas large. Il avait davantage peur ici que dans une salle d'interrogatoire face à un criminel. La sage-femme posa avec délicatesse son bébé dans le nid qu'il avait formé avec ses bras. Au premier contact, il sentit toute la chaleur d'Angèle se déverser dans son cœur. Elle lui rappela celle d'Audra. Un instant de grâce et d'amour. L'avenir, l'espoir était là, tout contre lui, apaisant. Un immense sourire apparut sur son visage quand la minuscule main se resserra avec une force surprenante autour de son index. Un jour, il faudrait lui expliquer cette période, lui dire à quel point sa mère avait été courageuse, à quel point elle s'était battue pour qu'il vive. Audra avait réussi à arracher un peu de lumière aux ténèbres. De la mort, elle avait fait jaillir la vie. Jamais Nicolas ne l'oublierait.